Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Au lit avec Anne-Marie.
Anne-Marie Ménard est avec nous, professionnelle en sexologie. Anne-Marie, bonjour.
Bonjour.
Le sexe et l'intelligence artificielle, ça, c'est fascinant ce que ça annonce.
Absolument, un sujet fascinant, mais qui amène aussi beaucoup de débats.
Oui, hein. D'abord, tu veux aborder les différents types d'intelligence artificielle disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, donc j'ai envie qu'on se plonge dans les différentes technologies de pointe qui permettent la création de robots sexuels. Il y en a plusieurs et c'est quand même vraiment intéressant de voir la diversité qui s'offre à nous. Il y a des avancées très rapides là dans le domaine. Donc, on a d'abord des robots à corps entier. Donc, ça va vraiment être des robots humanoïdes qui vont être conçus pour ressembler à une forme humaine. On va avoir des capteurs, des moteurs. On va vraiment s'engager dans des interactions physiques. On va avoir des poupées sexuelles robotiques. Donc là, on va vraiment avoir plus une interaction avec le robot. Il va réagir au toucher. Il va avoir des fonctionnalités personnalisables. Ils peuvent aussi incorporer des capteurs là, pour des réponses simulées lors d'interactions sexuelles. Donc ça, c'est vraiment là, la Cadillac des robots sexuels. Mm-hmm. Ensuite, on a la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc là, on va vraiment parler, par exemple, réalité immersive, interactive, où on va peut-être regarder de la pornographie à travers une lunette qui va nous permettre de voir des avatars en 3D. Et on va avoir des chatbots qu'on appelle, donc des compagnons virtuels qui, eux, vont avoir des conversations avec nous pour nous fournir de la compagnie, s'engager dans des scénarios de jeux de rôle avec les utilisateurs.
D'après toi, qu'est-ce qui marche le plus au niveau de la sexualité? Le rapport simili-humain ou le rapport physique?
J'ai l'impression que les gens vont d'abord, d'emblée, aller chercher un rapport physique. Ils veulent satisfaire une certaine pulsion. Puis, il y a des gens qui sont plus limités là au niveau social, qui vont peut-être apprécier justement l'interaction avec un robot.
C'est bizarre, mais tu peux pas tomber en amour là avec un robot.
Ben, je dirais que bon, il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui vont dire que non, par exemple. C'est sûr qu'il y a un potentiel de connexion émotionnelle. Les personnes qui vont avoir ce potentiel-là vont souvent être. Il y a des facteurs qui amènent à ça. Donc, la solitude, l'isolement social, ouais. Les besoins psychologiques sont spécifiques. Mais c'est pas tout le monde là, qui peut former une connexion émotionnelle avec un robot. C'est très, très, très relatif. Mais oui, il y en a qui disent être capables de former cette connexion-là quand même.
Mais qu'est-ce que tu veux dire par connexion émotionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, c'est parce que les robots sont conçus pour imiter des émotions puis des comportements humains grâce à des algorithmes. Donc, ils vont être programmés pour répondre à certains signaux, hein, engager des conversations, avoir des comportements qui simulent une connexion émotionnelle. On s'entend, là, c'est complètement illusoire. Mais il y a des gens qui ont la difficulté à entretenir des interactions sociales dans la société qui vont être capables de le développer avec le robot qui est programmé pour répondre à cette personne-là.
Ouais, mais en même temps, tu veux un robot, Anne-Marie, pour ne pas te faire contredire, pour ne pas avoir de, tu sais, de contraintes, puis de, tu sais, c'est pas simple les relations humaines, les relations sexuelles. Alors, si t'es un robot, ça devient ton valet, ton esclave.
Ben, c'est ça qui arrive. Hein. Les interactions vont se limiter à la programmation du robot. Puis c'est là qu'on se questionne à savoir est-ce que c'est vraiment éthique, parce que là, évidemment, ça amène des connexions émotionnelles très limitées. Comment est-ce qu'on fait après ça pour développer des capacités à entrer en connexion avec des vrais humains qui sont pas programmés pour répondre à nos besoins? C'est vraiment la question qu'on se pose.
Ouais, qui va dire j'ai mal à la tête ou ça me tente pas ou tu sais, c'est l'être humain, c'est ça là, on n'est pas toujours à notre 100% potentiel, mais là devant un robot, ben il est à ta il ou elle est à ta disponibilité. Est-ce qu'il y a des robots féminins et masculins, Anne-Marie?
Oui, il y a des robots masculins, féminins, il y a des robots non-binaires aussi qui vont vraiment être, qui n'auront pas de genre ou de sexe, qui vont vraiment être là pour répondre aux besoins, qui peuvent être faits sur mesure.
Hein? Ah oui, je pense que ça s'appelle Ken, hein? Il s'appelle Ken et Barbie, ça se peut-tu? Non.
Exactement.
Et tu parles de limites et de conséquences potentielles de ces technologies. Ça remplacera jamais un être humain?
C'est ça qui arrive. C'est que ça remplace pas un être humain. On a des inquiétudes là, quant à la déshumanisation ou à l'objectification potentielle. Vous parliez de consentement. Ça donne peut-être la perception à certaines personnes. En fait, ça déforme la vision du consentement chez certaines personnes. Hein. On va déshumaniser. Il y a un potentiel de déshumanisation des êtres humains. Donc, il faut vraiment avoir des grandes discussions entourant le sujet, hein, des discussions avec des experts en psychologie, en éthique, en intelligence artificielle, à savoir comment est-ce que on va se développer, parce qu'on est encore très nouveau là chez les êtres humains, là, d'avoir des interactions avec des robots. Donc, évidemment, on se questionne sur le consentement et le potentiel d'exploitation. C'est flou, hein, les frontières entre les interactions humaines et les machines. Et ça va être quoi après ça au niveau du bien-être humain et des normes sociétales? Parce que là, si on se met à avoir des interactions avec les robots, ça peut devenir dangereux.
Ouais. Puis ça va prendre quelques lingettes aussi, hein, parce qu'il faut nettoyer ça après.
Hein. Oui, il faut quand même le désinfecter, oui.
Mine de rien. Donnez son bain, il va y avoir des courts-circuits, on ne sait pas. C'est vraiment particulier, hein, le rapport aux robots sexuels. Là, c'est, il y a une réflexion à avoir là, collectivement face à ça. Est-ce qu'il vaut mieux un robot sexuel à la solitude?
C'est tellement une bonne question, puis je pense que c'est là qu'on doit entrer dans des grandes discussions éthiques. Tu sais, il y a des gens qui ont des limitations, que ce soit des handicaps physiques ou psychologiques, chez qui, ben, peut-être que les robots, justement, peuvent répondre à certains besoins. Je suis pas contre ça. On sait, hein, il y a des travailleuses du sexe là, qui vont s'adonner à des activités sexuelles avec des gens qui ont des handicaps. Donc, moi, personnellement, je l'ai déjà vu. J'ai fait un stage avec des gens qui avaient des traumatismes crânio-cérébraux, qui avaient des limitations dans leur sexualité. Puis, ben, ces gens-là aussi ont des besoins.
Mm-hmm.
Donc, grande question éthique là, autour des robots. On veut juste pas que ça dérape. En fait.
Ouais, c'est un très bon sujet. Anne-Marie Ménard, merci. On se reparle demain.
À demain.
Salut et merci à toute l'équipe. Yasmine suit à l'instant.